Vous écoutez, c'est pour ma pomme, le podcast qui parle des produits Apple et de leurs usages, mais pas que. Je suis David, bienvenue dans l'épisode spécial WWDC 2021. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Épisode comme tous les ans consacré à la WWDC. On a eu la keynote inaugurale hier soir, ou du moins la vidéo inaugurale hier soir, parce que maintenant Apple ne fait plus de keynote en public. J'ai décidé donc dans cet épisode de revenir avec vous sur les points importants qui ont été annoncés hier soir, les petites nouveautés qui ont été annoncées dans les différents OS, les gros manques que j'ai trouvés aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on attendait par rapport à tout ce que nous avait fait miroiter les liqueurs lors des dernières semaines. Et voilà, revenir à peu près sur tout ce que Apple nous a annoncé et dit hier soir concernant les nouveaux OS que nous aurons, nous, à la rentrée sur nos appareils. Alors, pour commencer, je voudrais juste dire que je trouve qu'Apple, encore cette année, ou du moins cette année, n'a pas annoncé d'énormes choses, de trucs extraordinaires. C'est plutôt une mise à niveau de tous les OS, une stabilisation de tous les OS, avec bien sûr des petites nouveautés à droite à gauche, focusées sur des grands groupes. Mais voilà, pas de trucs extraordinaires. On attendait beaucoup de choses extraordinaires. On attendait, alors on va crever l'abcès tout de suite, on attendait aussi beaucoup d'annonces de produits lors de cette conférence. Rien, absolument rien n'a été annoncé hier soir. Donc voilà, ça sera pour les semaines, les mois à venir. Mais moi, dans cet épisode, je vais plutôt vous parler de toutes les petites nouveautés OS par OS qui ont été annoncées. Alors, à savoir que quand même, les nouveautés que je vais vous annoncer en premier, les groupes de nouveautés que je vais vous annoncer en premier, ils ont été annoncés sur iOS, mais elles seront disponibles sur tous les OS, c'est-à-dire sur iOS, macOS, iPadOS. C'est des choses qui seront disponibles à peu près partout. Bien sûr, pas sur WatchOS, parce que c'est pas le même usage, mais sinon, sur tous les autres OS, toutes ces nouveautés seront disponibles un peu partout, mais ils les ont présentées pour le coup directement sur iOS. Alors, ces nouveautés, elles s'axent sur quatre groupes. Ces quatre groupes, c'est Staying Connect, Finding Focus, Using Intelligence et Exploring the World. Alors, on va commencer par le premier qui a été annoncé hier soir, Staying Connect. Staying Connect, on le sait, depuis un an et demi maintenant, on vit dans un contexte de pandémie où les gens ne peuvent plus se rencontrer, les gens ne peuvent plus travailler comme ils le faisaient avant. Donc, beaucoup de personnes passent leur temps sur des chats, sur des calls en visio, sur tout un tas de choses en non-présentiel. Et beaucoup de boîtes telles que Zoom, telles que Skype, avaient fait beaucoup d'efforts, avaient beaucoup amélioré leur système durant toute cette pandémie, justement pour améliorer les échanges entre les gens, entre les personnes qui utilisaient ces outils pour travailler. FaceTime était clairement encore vraiment, vraiment en retard sur ce point-là. Apple a décidé, donc dans ce focus sur qu'ils appellent Staying Connect, d'améliorer FaceTime grandement, de le remettre, on va dire, au niveau de ce que pouvaient faire ses concurrents. Les grosses améliorations qu'ils ont annoncées sur FaceTime, c'est tout d'abord Spatial Audio pour avoir un son bien meilleur. On le sait que maintenant Spatial Audio va être implémenté un peu partout. Ça a été implémenté dans les AirPods, ça a été implémenté dans Apple Music depuis très peu de temps. Enfin voilà, ça va être implémenté un peu partout et donc Apple a décidé de l'implémenter aussi dans FaceTime, avec une fonction annulation du bruit qui, pour le coup, clairement a l'air assez bluffante. Alors, va falloir voir. Clairement, de ce qu'ils ont lancé hier soir, du moins de la démo qu'ils ont fait hier soir, pour petit rappel pour ceux qui ont vu la démo, on voit quelqu'un en train de faire un FaceTime et on voit quelqu'un, enfin sa fille je pense, arriver derrière avec une souffleuse, une énorme souffleuse qu'on utilise pour souffler les feuilles. Et quand cette personne, la personne qui est en FaceTime, met la fonction annulation de bruit, on n'entend plus que sa voix, on n'entend plus du tout la souffleuse. Alors oui, c'est beau, ça a l'air magique quand on le regarde comme ça. Va falloir clairement voir si si en vérité c'est exactement comme ça que ça se passe. Deuxième fonction qu'ils ont apportée sur FaceTime, la fonction Portrait Mode. La fonction Portrait Mode, c'est assez simple, c'est déjà disponible sur toutes les autres plateformes. C'est juste pour mettre un blur d'arrière-plan derrière vous pour que quand vous êtes en call avec quelqu'un, qu'on ne voit pas forcément ce qui se passe derrière vous, qu'on ne voit pas forcément votre intérieur. L'intérieur sera entièrement flouté pour avoir un focus juste sur la personne qui est en train de parler. Grosse amélioration qu'ils ont annoncée sur FaceTime, FaceTime Link. Alors, on le sait, depuis des années, Apple essaye de transposer ses applications natives sur les autres OS, que ce soit sur Android, que ce soit sur Windows. C'était le cas pour Apple Music, ça a été déjà le cas depuis des années par iTunes. Mais FaceTime, on le sait, Steve Jobs, avant sa mort, l'avait dit que FaceTime deviendrait serait ouvert à beaucoup de choses et on n'en voyait pas la couleur depuis ces grandes annonces. Enfin, FaceTime s'ouvre à d'autres choses, mais par un système assez ingénieux, c'est que maintenant, ça va passer par ce qu'ils appellent un FaceTime Link. Et en fait, ça va grossièrement n'être qu'un lien web. Donc, un lien web que vous pourrez ouvrir un peu partout, que ce soit sur Android, que ce soit sur Windows. C'est un lien que la personne qui a un iPhone va vous envoyer. Et si vous êtes sur Android, si vous êtes sur Windows, vous n'aurez qu'à vous rendre sur ce lien et vous pourrez participer à un FaceTime sans avoir d'application native FaceTime, sans avoir d'application disponible directement sur votre téléphone ou sur votre tablette. Donc ça, c'est une grosse annonce pour FaceTime. C'est une grosse avancée pour FaceTime. C'est quelque chose qu'on attendait depuis énormément longtemps. Dernière grosse nouveauté qu'ils ont annoncée concernant FaceTime, c'est SharePlay. SharePlay, bah justement, dans ce contexte de pandémie mondiale que l'on connaît depuis plus d'un an, les gens ne se voient plus, les gens ne se rencontrent plus. Donc, cette fonction SharePlay va vous permettre tout simplement de partager énormément de choses via FaceTime. Alors, quand je dis énormément de choses, vous allez pouvoir partager des films, vous allez pouvoir partager des musiques, vous allez pouvoir partager des podcasts. Enfin, tout le contenu qui est disponible sur vos applications, sur votre téléphone, vous allez pouvoir partager des séries. Et voilà, dans un groupe FaceTime, pourquoi pas regarder un film ensemble, pourquoi pas regarder une série ensemble. Dans un groupe de travail, peut-être partager un podcast sur un sujet bien particulier. Enfin voilà, c'est une fonction qui va vous permettre via FaceTime de partager énormément de choses. Et ça, voilà, dans le contexte dans lequel on vit depuis plusieurs mois maintenant, c'est quelque chose qui est assez important, on va pas se le cacher. Deuxième gros groupe de nouveautés, d'avancées qu'Apple a proposé hier soir, c'est un groupe qu'ils ont appelé Finding Focus. Alors, Finding Focus, c'est pareil, c'est tout un tas de petites nouveautés qui sont apportées dans les OS d'Apple, qui, on va dire, pour le coup, sont vraiment pas très, 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 très mal. Alors, ça commence par une grosse refonte des notifications. Maintenant, les notifications, alors on avait déjà eu une grosse refonte dans les derniers OS, mais là, ça sera beaucoup plus clair. Les notifications vont être rangées beaucoup plus par groupe, ce qui va les rendre la lecture beaucoup plus claire. Il y a aussi un autre système par rapport aux notifications qu'ils ont appelé Notification Summary, qui va en fait vous permettre de faire grossièrement. Alors moi, c'est l'idée que je m'en suis fait quand j'ai vu la vidéo. Ça va vous permettre de faire grossièrement un journal de vos notifications et qui va vous les disséminer de façon beaucoup plus pertinente en fonction de l'action que vous êtes en train de faire, du moment de la journée où vous êtes. Voilà, ça va vous créer un petit journal des différentes notifications, que ce soit les appels, que ce soit les notifications Twitter, enfin, toutes les notifications que vous avez configurées dès le départ. Mais voilà, ça va vous les rendre dans un petit journal, ouais. On peut pas, il y a pas forcément de nom plus mieux pour nommer ça. Ça a l'air d'être un petit journal et ça, les notifications arriveront de manière beaucoup plus pertinente en fonction du moment ou de la chose que vous êtes en train de faire. Deuxième chose dans ce groupe de nouveautés, on va dire, c'est l'arrivée des modes. Alors, on le sait, depuis des années, on avait le mode Do Not Disturb qui vous permettait de stopper toutes les notifications, tous les appels quand vous n'avez pas envie d'être dérangé par quoi que ce soit, quand vous étiez en train de faire quelque chose. Maintenant, ils vont étendre ce système de mode à tout un tas d'autres modes qui n'aura de limite en fait que votre imagination. Ça sera à vous de créer les différents modes que vous voudrez mettre sur votre téléphone. Alors eux, ils ont donné des exemples, un mode travail, un mode sport. Moi je vois aussi des modes création de contenu que vous pourriez mettre. C'est des modes qui vont en fait, en plus de vous focuser sur un groupe de travail ou sur quelque chose à faire bien précise, va en plus un peu changer l'interface de votre téléphone. Je prends un exemple tout simple. C'est-à-dire que au départ, quand vous allez créer vos modes, vous allez créer aussi peut-être, pour avoir l'expérience totale, créer différentes pages sur votre téléphone, comme ils l'ont montré hier pendant la conférence. Moi, l'exemple le plus frappant que je vois, c'est, imaginons, on va prendre un exemple assez simple, je vais prendre mon exemple. Imaginons que je veuille créer un mode création de contenu. Je vais faire une page sur mon Springboard, création de contenu, que je vais utiliser. Ça sera une page qui sera réservée à ma création de contenu. Sur cette page-là, je vais pouvoir mettre des applications telles que Ferrit pour enregistrer les podcasts, telles que LumaFusion pour faire des vidéos, telles que mon application Notes pour prendre des notes, telles que mon application WordPress pour écrire des articles de blog. Voilà, je vais réserver une page complète sur mon Springboard. Après ça, je vais créer un mode création de contenu que je vais linker avec cette page-là. Et c'est-à-dire que quand je passerai en mode création de contenu, le téléphone ou l'iPad passera directement de votre Springboard de départ, de votre Springboard d'ouverture de votre iPad à un Springboard dédié à la chose que vous êtes en train de faire. Pareil sur l'iPhone. Si vous créez un mode sport, on va dire, et que vous créez une page sur votre Springboard avec toutes les applications qui vous servent pour faire du sport, que ça soit les applications de sport telles qu'elles le sont, Nike, l'application Activité d'Apple, ou des applications de Maps, peut-être pour quand vous allez courir, vous allez créer une page que vous n'allez pas nommer sport, mais qui va servir à ce mode sport. Et vous allez créer un mode sport, et quand vous passerez au mode sport, directement, hop, votre téléphone va passer sur cette page-là où vous aurez vos applications dédiées pour le sport. Vous n'aurez pas besoin d'aller chercher une application à droite, d'aller chercher une application. Toutes les applications dédiées à la chose que vous êtes en train de faire au moment précis où vous rentrez dans ce mode-là seront directement sur la page qui sera mise en avant devant vous. Donc franchement, c'est quelque chose qui est vraiment pas mal, qui va permettre, ça porte bien son nom, qui va permettre de trouver le focus et de se focuser sur des actions bien précises en fonction des moments de la journée, des choses que vous faites dans la journée. Donc ça, c'est vraiment pour moi une grosse, grosse chose. Troisième groupe de grosses nouveautés qu'ils ont annoncées. Alors là, par contre, dans ce groupe-là, il y a une nouveauté que je trouve clairement bluffante. On va pas se mentir, il y a deux nouveautés hier soir durant la keynote que j'ai trouvé bluffante. Celle dont je vais vous parler tout de suite et une dont je vous parlerai un peu plus tard dans l'épisode. Alors, ce troisième groupe de nouveautés, de nouvelles fonctions, ils l'ont appelé Using Intelligence. Dans ce groupe-là, vous allez trouver une nouveauté, donc celle dont je vous parle, qui s'appelle Live Text. Et alors, en quoi cette nouveauté pour moi est bluffante ? Je vais vous prendre tout simplement l'exemple qu'Apple a donné lors de la WWDC hier soir. Et pour moi, ça a été clairement, je trouve pas d'autres mots, ça a été bluffant. Donc l'exemple qu'ils ont donné, c'est quelqu'un qui prend son iPhone, qui prend une photo du mur d'un restaurant. Sur ce mur de restaurant, il y a le nom du restaurant peint et en dessous, il y a le numéro de téléphone du restaurant qui est peint. Donc voilà, elle prend une photo tout simplement. Plusieurs jours, plusieurs semaines après peut-être, cette personne rentre chez soi et se dit « Tiens, c'est bizarre, tu te rappelles du restaurant là, c'était quoi, c'était machin ?» Elle recherche ses photos. Elle retombe sur cette photo où elle a pris donc le mur avec le nom du restaurant et le numéro de téléphone. Et ce que cette fonction live text, va faire, c'est que elle va rendre en fait toutes les parties de la photo où il y a quelque chose, elle va les rendre cliquables. C'est-à-dire que quand vous arriverez sur cette photo, vous aurez le nom du restaurant, vous allez cliquer sur le nom du restaurant. Directement, en cliquant sur le nom du restaurant, ça va vous emmener directement, ça va ouvrir Maps, ça va vous donner le lien du restaurant, enfin l'adresse du restaurant, votre carte, les avis, enfin tout ce que vous pouvez trouver sur Maps ce qui concerne ce restaurant, ça va vous emmener directement. Pareil pour le numéro de téléphone qui était, je le rappelle, peint sur le mur, eh ben, il sera totalement cliquable directement sur la photo. C'est-à-dire que sur cette photo, vous allez cliquer sur le numéro de téléphone et directement, ça va vous demander si vous voulez appeler le restaurant sans passer. Ça vous fera passer directement vers votre application téléphone et ça appellera directement le restaurant. Et franchement, je trouve que cette fonction est clairement bluffante. Alors, ça s'était déjà vu, on avait déjà vu des prémices de ces choses-là chez Google, chez plein d'autres personnes. Mais là, je trouve qu'Apple, clairement, pousse le niveau encore un peu plus loin concernant l'OCR en live, en fait. Et je trouve, ouais, il n'y a pas d'autre mot, je trouve ça clairement bluffant. Dans ce groupe Using Intelligence, ils ont aussi annoncé beaucoup de nouveautés concernant les memories dans photo. Alors, je ne vais pas détailler tout ici, mais enfin, voilà, ils ont annoncé encore une amélioration sur Memories en fonction. Alors maintenant, vous pourrez plus personnaliser ça au niveau des filtres, au niveau des musiques. Franchement, ça. Bah alors, pour les gens qui utilisent Memories, moi je sais que je les utilisais beaucoup au début. Et avec le temps, je les utilise beaucoup moins. Mais bon, voilà, s'il y a des personnes qui utilisent beaucoup Memories, c'est quelque chose que il y aura beaucoup d'améliorations. Beaucoup d'améliorations sur les memories dans iOS 15 et iPadOS 15 bien sûr. Petit rappel, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces nouveautés sont faites on device. Rien n'est fait sur le web, tout est fait dans l'appareil. Donc niveau sécurité, ça sera vraiment encore un cran au-dessus par rapport à ce qu'Apple essaye de pousser depuis pas mal d'années. Quatrième groupe de nouveautés qu'ils ont annoncé, c'est une nouveauté qu'ils ont appelée Exploring the World. Dans ce groupe, en fait, ils n'ont pas annoncé grand-chose, ils ont annoncé grossièrement que l'amélioration de deux grosses apps natives qui n'était pas amélioré depuis énormément longtemps. La première, c'est l'application météo. On le sait, l'année dernière ou l'année d'avant, Apple a racheté Dark Sky. Donc, on se doutait bien que l'application météo allait avoir droit à une refonte. Mais je ne pensais pas que ça serait à ce point-là. Moi, pour petit rappel, ma compagne utilise deux applications de météo parce que l'application native était loin d'être complète. Maintenant, de ce que j'ai testé là sur les bêtas depuis hier soir, pour les gens qui utilisaient plusieurs applications parce que l'application native ne leur apportait pas tout ce dont ils avaient besoin, là, l'application est vraiment plus complète et elle va pouvoir se mettre au niveau, on va dire, de la concurrence. Deuxième application qui a été grandement améliorée, l'application Maps. Alors, c'est assez difficile à dire en podcast comme ça, mais si vous voulez aller voir la conférence, la vidéo d'hier soir, franchement, il y a eu d'énormes améliorations sur Maps, tant au niveau de la mapisation 3D, on va dire, mais au niveau de tout ce qui est en relation avec Maps, c'est-à-dire que maintenant, dans Maps, vous allez trouver beaucoup plus de choses. Les passages piétons dans les villes, les feux, enfin tout va être vachement mieux modélisé et on voit que qu'Apple travaille vraiment beaucoup sur Maps depuis deux ans et demi et qu'ils essayent d'améliorer Maps pour le faire arriver au niveau de Google Maps. Je pense qu'ils sont encore pas totalement au niveau, sur certains points si, sur certains points ils dépassent même Google Maps, mais sur certains autres points ils sont encore pas au niveau, mais ça s'améliore d'année en année et clairement si vous n'avez pas vu la vidéo je vous invite vraiment à aller la voir parce que Maps, il y a de grosses améliorations. Autre annonce qu'ils ont fait juste après, et qui m'a, alors qui va pas me servir moi pour le coup vraiment, mais qui a l'air vraiment pas mal, c'est quelque chose qu'ils appellent Temporarily iCloud Storage Backup. Et c'est en fait pour les gens qui n'ont pas de forfait iCloud payant, ou alors qui ont un forfait iCloud payant, mais un tout petit forfait, ça va vous permettre tout simplement d'avoir un iCloud illimité pendant 3 semaines, juste pour vous permettre de faire le transfert d'un ancien appareil à un nouvel appareil. On sait que c'est assez galère quand vous passez d'un nouvel appareil à un ancien appareil. Tout ce qui était sur l'appareil en physique, en local sur l'appareil et qui ne pouvait pas rentrer dans iCloud, c'est assez difficile quand vous voulez faire le passage d'un appareil à l'autre. Là maintenant, Apple, avec cette fonction, va vous permettre tout simplement d'avoir pendant 3 semaines un stockage illimité à iCloud pour vous permettre de plus sereinement de faire le passage d'un appareil à un autre. Et ça, c'est une fonction, ça paye pas de mine, mais je pense que ça peut aider beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Passons maintenant sur le gros morceau que j'attendais de cette conférence. Le morceau qui est pour moi le plus important, pour rappel, pour une personne comme moi qui utilise l'iPad Pro comme machine principale. Donc, bien sûr, je vais parler d'iPadOS. J'attendais énormément d'iPadOS. J'ai été énormément surpris des nouveautés qu'ils ont annoncées hier soir, agréablement surpris, mais j'ai été aussi énormément déçu. Alors, peut-être parce que j'en attendais trop, et sûrement parce que j'en attendais trop, mais voilà, j'ai été déçu de beaucoup de choses qu'ils ont annoncées hier soir. Déçu de beaucoup de choses qu'ils n'ont pas annoncé hier soir et surpris, agréablement surpris de beaucoup de choses qu'ils ont annoncé. Donc voilà, je vais pas tourner autour du pot. On va commencer par les choses dans lesquelles j'ai été déçu. J'attendais principalement 2 choses sur iPadOS. J'attendais l'arrivée des applications pro telles que Xcode, Final Cut, Logic sur iPad Pro du moins. Aucune annonce n'a été faite dans ce sens-là. Alors, un semblant d'annonce a été fait dans ce sens-là. Alors, pas du tout concernant Final Cut et Logic. Concernant Xcode, on n'a pas eu l'annonce réelle d'Xcode, mais si vous le savez peut-être, depuis des années maintenant, il y a une application qui existe sur iPad qui s'appelle Swift Playground qui vous permettait d'apprendre le code, d'apprendre le Swift, d'avoir vos premières notions de code. Maintenant, directement dans cette application, vous pourrez, alors je ne sais pas si je ne suis pas programmeur, je ne sais pas si ça sera plus simple, plus facile, plus difficile que sur Xcode. À mon avis, vu que Xcode est beaucoup plus complet, je pense que ça sera plus difficile sur Swift Playground. Mais voilà, vous pourrez de toute façon créer vos applications, coder vos applications directement dans Swift Playground et même les proposer à Apple directement dans Swift Playground sans passer par un Xcode à côté. Donc, va falloir avoir des retours des développeurs pour voir ce que ça donne. Mais voilà. C'est une annonce en demi-teinte. On va pouvoir coder sur iPad Pro, mais pas avec un Xcode complet. Donc, est-ce que ça annonce peut-être l'arrivée d'un Xcode complet plus tard, l'année prochaine ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, concernant les autres applications Pro, Logic, Final Cut, aucune annonce. Alors voilà, bon il restera les applications qui sont très bonnes. Hein, au demeurant, je ne critique pas du tout les applications comme Ferrit, comme LumaFusion. Mais voilà, je l'avais déjà dit dans différents épisodes. Moi, je préfère travailler sur des applications natives parce que c'est plus simple, c'est plus intégré à l'OS. Donc voilà, j'aurais préféré des applications natives Apple. Bon, ils les ont pas annoncées cette année. On verra par la suite. On verra si ça arrive un jour, mais c'est encore pas le cas cette année. Concernant les bonnes nouvelles d'iPadOS, les trucs que j'attendais et qui ont été annoncés. Enfin, comme l'année dernière, et voilà, c'est pas quelque chose d'énormissime, c'est pas quelque chose de nouveau. On l'avait depuis un an sur iPhone. Mais enfin, on va pouvoir mettre les widgets un peu partout sur les différentes pages du Springboard sur iPadOS. Et c'est quelque chose qui est vraiment bien parce que elles étaient encore cantonnées sur le côté gauche de l'iPad. Et c'était assez difficile d'interagir avec. pour certaines choses. Donc voilà, les avoir au milieu des apps en fonction, bah alors après ça sera à vous de les ranger comme vous le voulez, mais les avoir au milieu des apps en fonction de ce que vous faites, de votre productivité, de votre façon de travailler, c'est quelque chose que j'attendais et qui a été annoncé. Le multitasking aussi. Alors par contre là, je vais pas vous en parler énormément. Je pense que je ferai un article beaucoup plus poussé sur le multitasking, parce que il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été annoncées sur ce point-là, et c'est quelque chose qui était très important pour moi au niveau productivité. Donc voilà, sachez que il y a eu de grandes annonces de fait concernant le multitasking sur iPad Pro. Et sur iPad en général, mais plus spécifiquement sur iPad Pro. Et je vous ferai, je pense, dans les semaines à venir, un article dédié sur ce point. Quick Note aussi, petite nouveauté qui est pas mal. Alors maintenant, avec votre pencil, en swipant du coin inférieur droit de votre iPad, vous pourrez faire venir sur l'écran un espèce de petit post-it qui va vous permettre de prendre des notes assez rapidement. Ce qui est pour le coup pas mal, et ces notes vont se ranger dans un endroit spécial où vous retrouverez toutes vos, ce qu'ils appellent vos quick notes. Donc c'est quand vous êtes en train de travailler sur une application en plein écran et que vous voulez juste prendre une petite note, franchement ça peut être une bonne petite nouveauté. On va passer assez vite sur les dernières nouveautés, parce que c'est des choses qui, franchement, on en attendait plus. On va déjà parler de WatchOS. WatchOS, j'en attendais pas grand chose. J'attends beaucoup plus d'une nouvelle Apple Watch à la rentrée, si ça ressemble à ce que les leaks nous ont dit, donc un côté beaucoup plus carré qui ressemble aux derniers iPhones. Mais concernant WatchOS, j'attendais pas forcément grand chose. On va dire que WatchOS, ils ont pas annoncé de grosses améliorations. On aura, pour moi, de ce qu'ils ont annoncé, ça sera beaucoup plus simple. L'interface sera beaucoup plus simple et encore plus tournée vers la santé, avec encore plus de data. Alors, ils ont montré pas mal de choses sur votre façon de marcher, sur votre cholestérol. Il y a tout un tas de choses. Alors, c'est pareil, voir ce que nous, on aura de disponible en France, que ce qui ne sera disponible que dans les pays anglophones, ça, on ne pourra le voir que quand les OS sortiront. Petit rappel, moi, j'ai installé les bêtas que sur un iPhone et sur un iPad. Par contre, je ne prends pas le risque d'installer WatchOS bêta sur ma montre, parce que j'ai pas envie de perdre tout mon contenu, tous mes badges, tous mes cercles fermés. Donc voilà, la montre, c'est quelque chose sur lequel je n'installe pas du tout de bêta, et j'ai même du mal à installer les OS le premier jour. Donc voilà, c'est des choses qu'on verra à la rentrée. Par contre, la petite déception concernant la santé, concernant tout ce monde-là, j'attendais beaucoup d'une refonte de l'app activité qui commence à vieillir un peu. Rien, absolument rien d'annoncé hier soir. Alors, c'est pareil, est-ce que ça n'a pas été annoncé durant la keynote parce qu'ils avaient déjà beaucoup de choses à dire, et est-ce qu'on va découvrir au fur et à mesure des semaines certaines nouveautés, certaines refontes sur l'app activité? Je ne sais encore pas, on verra par la suite, mais pour l'instant rien vraiment d'annoncé, et c'est quelque chose que j'attendais moi, donc un peu déçu sur ce point là. Autre point sur lequel j'attendais énormément, l'application Home. J'attendais une grosse refonte de l'application Home, qui est bien, qui est utile, que j'utilise absolument tous les jours. Mais j'attendais une refonte pour que ça soit un peu plus intuitif. J'attendais une nouvelle application Home pour l'Apple TV. Rien de tout ça n'a été annoncé. Donc, sur l'interface, ça restera toujours la même interface. Les seules grosses nouveautés pour moi qui ont été annoncées concernant Home et concernant la domotique chez Apple, c'est l'arrivée de Siri sur des devices tiers. Donc ça, c'est vraiment pas mal. L'exemple qu'ils ont montré, alors j'ai pas trop vu si c'était un thermostat Nest, mais bon voilà, on voyait qu'il allait pouvoir y avoir dans le futur Siri sur des devices comme ça, des devices Nest ou des devices Philips Hue, pourquoi pas. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc bien sûr, ça sera, je pense pas, disponible par une mise à jour. Je pense que ça sera de nouveaux devices qui arriveront, qui seront disponibles avec Siri. Mais bon, voilà, on va pas cracher sur une telle nouveauté. Ça peut être vraiment, vraiment pas mal. Et la deuxième nouveauté qui m'a un peu intéressé dans la section Home, c'est l'arrivée du Spatial Audio sur les HomePod Mini. On se demandait depuis la sortie pourquoi tous les HomePod y avaient droit sauf celui-là. Bon ben voilà, maintenant on le sait, le Spatial Audio arrivera sur les HomePod Mini. Et vous pourrez aussi utiliser les HomePod Mini comme enceinte entre gros guillemets de Home Cinema. Mais attention, que sur l'Apple TV 4K de dernière génération. Donc voilà. Après, je ne sais pas si sur une Apple TV, enfin dans le contexte d'un salon, si les HomePod Mini seront assez puissants. Moi, je vois que dans une petite pièce comme mon studio, oui, c'est assez puissant pour s'en servir comme home cinéma sur une télé. Après, dans un grand salon, je ne sais pas. Moi qui utilise dans mon salon deux HomePod original, oui, c'est bien, le son est bien. Des HomePod Mini, ça sera peut-être un petit peu léger pour une grande pièce comme un salon. À voir, je sais pas, ça va falloir clairement tester par la suite. Je vais pas faire beaucoup plus long. Alors pour ne rien vous cacher, c'est la deuxième fois que j'enregistre cet épisode. La première fois que je l'ai enregistré, j'avais fait quasiment 50 minutes, mais au moment d'éditer le podcast, je me suis rendu compte que toute la deuxième moitié du podcast était quasiment inécoutable. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec le micro. Donc voilà, je vais essayer de faire beaucoup plus court cette fois-ci. La grosse nouveauté pour moi qui a été annoncée hier soir, c'est une nouveauté qu'ils appellent Universal Control. Je vais faire assez simple, je vais juste vous dire ce qu'ils ont fait dans la vidéo. Et vous allez tout de suite comprendre en quoi c'est vraiment quelque chose qui est assez extraordinaire. Donc pour petit rappel, dans la vidéo, on voyait Craig Federighi dans un laboratoire avec à sa droite un iPad Pro, au milieu, de juste devant lui, un MacBook Pro et à sa gauche un iMac. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est que directement depuis le trackpad du MacBook Pro qui est devant lui, il peut en fait contrôler tous les appareils qui sont autour de lui. C'est-à-dire que directement sur l'iPad, sur le MacBook Pro, il peut aller contrôler, donc bien sûr le MacBook Pro, ce qui est logique, mais aussi aller contrôler l'iPad Pro qui est à sa droite, aller changer une fenêtre, aller ouvrir une application sans aucun problème. Mais ce qui a bluffé de toutes les vidéos que j'ai vu depuis hier soir, ce qui a bluffé à peu près tout le monde, c'est qu'à un moment de sa démo, il va sur l'iPad, ça doit être sur Procreate, il va chercher un design d'un titre qu'il a créé sur Procreate, ou du moins, je pense pas que ça soit lui qui l'ait créé, mais qui a été créé sur Procreate. Et il le prend avec le trackpad du MacBook Pro. Il va le chercher directement sur l'iPad. Il le fait passer sur l'iPad. Il le fait passer à travers le MacBook Pro pour aller l'installer dans Final Cut qui est sur l'iMac qui est à sa droite. Donc en fait, ce petit design, ce petit fichier, il le fait passer entre trois appareils et ça a l'air d'être d'une fluidité, mais clairement exceptionnelle. D'après ce que j'ai vu, et on va pas se mentir, ne pensez pas avoir accès à ces nouveautés si vous avez même les derniers Mac Intel. Je pense clairement que toutes ces nouveautés, je suis pas sûr qu'il l'ait dit hier soir durant la keynote, mais je pense que toutes ces nouveautés ne seront disponibles que sur les devices qui bénéficient de la puce M1, c'est-à-dire derniers iPad Pro M1, MacBook Pro 13 M1, MacBook Air et l'iMac de dernière génération, les derniers iMac qui ont été annoncés il y a très très peu de temps. Donc voilà, je pense que ça va se démocratiser parce qu'au fur et à mesure du temps, bien sûr, on va pas se mentir, les devices Intel vont disparaître. Donc voilà, c'est des fonctions qui vont se démocratiser au fur et à mesure du temps. Mais là, à l'automne, je pense que toutes les personnes qui ont... alors que ça soit... Même moi, avec un iPad Pro de 2020, donc celui juste avant le M1, je ne pense pas que j'y aurai accès. Et les Mac Intel, même de dernière génération, je ne pense pas qu'ils y auront accès non plus. Donc voilà. Mais clairement, cette fonction Universal Control est réellement bluffante. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo parce que c'est quand on le voit, ça a l'air tellement fluide que c'est bluffant. Donc c'est pour moi, on va dire avec LiveText, les deux grosses nouveautés, même s'il y en a eu énormément des nouveautés, des petites nouveautés parsemées par-ci par-là dans les OS, mais pour moi c'est les deux grosses nouveautés qui ont été annoncées hier soir. Alors on va attendre, la WWDC n'a commencé que hier soir, là il y a une semaine de WWDC avec les développeurs, donc beaucoup de choses qui vont ressortir au fur et à mesure du temps. On va se laisser une semaine pour voir toutes les nouveautés, pour voir tous les tests qui vont être faits, et je pense qu'on va encore découvrir pas mal de choses. Donc moi, comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, moi directement après la conférence, j'ai installé iOS et iPadOS bien sûr sur des appareils, pas sur mes appareils principaux, mais comment ça va s'articuler au fur et à mesure des jours et des semaines là. Donc après cet épisode, je vais vous faire pas mal d'articles. Je vais déjà vous en faire un cet après-midi, un très petit article cet après-midi. Mais je pense que dans la semaine à venir et dans les semaines qui viennent, je vous ferai des articles beaucoup plus focus sur chaque OS en fonction de l'appareil. C'est-à-dire que je vous ferai un article dédié sur iOS avec toutes les nouveautés qu'on peut voir sur iOS, un article dédié sur iPadOS avec toutes les nouveautés qu'on peut trouver sur l'iPad. Voilà, donc je ne fais pas plus long, 36 minutes c'est déjà pas mal. Je reviendrai, comme je vous l'ai dit, sur toutes les nouveautés, mais n'hésitez pas, vous, si vous avez des choses que j'aurais pu oublier, alors je ne vous ai pas parlé de tout parce qu'il y a énormément de petites choses, des iCloud Plus qui ont été annoncées, plein de petites choses qui ont été annoncées, que je reviendrai au fur et à mesure du temps, peut-être dans d'autres épisodes de podcast. Mais voilà, si vous avez des choses qui pour vous ont été importantes et qui ont été annoncées hier soir, bah, n'hésitez pas à me le dire, à me joindre sur les réseaux sociaux, sur le blog, sur les messages du blog. Voilà, pour me dire ce qui vous a marqué ou ce qui vous a déçu durant cette conférence de la WWDC. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. Ciao !